L'Iran a compati aux douleurs du peuple et gouvernement turc pour la mort des victimes du tremblement de terre qui a frappé vendredi soir ce pays. Des millions d'Irakiens ont crié vendredi « Amérique dégage ». Le projet de loi retraite a été présenté et adopté en Conseil des ministres et trois soldats belges ont été blessés quand leur véhicule a roulé sur un engin explosif improvisé dans le nord du Mali. C'était le titre. En voici le journal. Le représentant spécial des États-Unis pour l'Iran, Brian Nook, a menacé jeudi le haut commandant militaire iranien, Ismail Rani, nouveau commandant de la force ROTS, du corps des gardiens de la révolution islamique, du même sort que celui de son feu prédécesseur, le général Qassem Soleimani, assassiné en Irak par les Américains. La Russie a réagi par la voix de sa porte-parole de la diplomatie, Madame Maria Zakharova. Je réitère que cela est inadmissible pour nous. À notre avis, il s'agit de déclarations qui vont à l'encontre du droit international et qui sont totalement illégales. Les représentants des pays du monde n'ont pas le droit de faire si facilement de telles déclarations contre des autorités d'autres pays. Une telle approche est inacceptable, a dit Madame Zakharova. Le directeur de l'Institut de planification stratégique à Moscou, Alexander Gusiev, avait précédemment prévu que les États-Unis poursuivraient leurs actions provocatrices contre la République islamique d'Iran. Selon cet analyste russe, ces provocations sont dues au fait que l'Iran a bouleversé la situation dans la région du Moyen-Orient où les États-Unis avaient fait de gros efforts pour renforcer leur position. Dans l'ensemble, la République islamique d'Iran est devenu l'un des pays les plus puissants de la région ces dernières années, ce que Washington ne peut pas tolérer. L'Iran a compati aux douleurs du peuple et gouvernement turc pour la mort des victimes du tremblement de terre qui a frappé vendredi soir ce pays. Un séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter a frappé vendredi l'est de la Turquie, faisant au moins 20 morts, un bilan encore provisoire. La terre a tremblé dans le district de Sivrish, dans la province d'Elazik. Le tremblement de terre a eu lieu vers 20h55, heure locale, selon l'agence gouvernementale des situations de catastrophe. La secousse a été mesurée à 6,8 sur l'échelle de Richter. De nombreux habitants ont passé la nuit dehors dans un froid mordant, mais paniqués à l'idée de rentrer chez eux. Des habitants inquiets du sort de leurs proches, alors que les lignes de téléphone mobile sont restées perturbées pendant de longues heures. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a présenté samedi 25 janvier ses condoléances et compassion au peuple et gouvernement turc. Des équipes spéciales de secours d'urgence ont été mises en état d'alerte sous l'ordre du ministre iranien de la Santé pour se rendre, si nécessaire, aux régions touchées par le séisme et venir au secours des sinistres. Des millions d'Irakiens rassemblés à Bagdad ont crié vendredi « Amérique dégage ». La manifestation anti-américaine des millions d'Irakiens a eu lieu à Bagdad et plusieurs responsables irakiens ont réagi à la participation historique de leur nation dans la marche du vendredi matin. Menée dans la capitale. Le député de l'Alliance Fatah au Parlement irakien, Mohammad Karimi, s'est adressé aux forces d'occupation en ces termes. Les occupants doivent quitter l'Irak de façon pacifique, sinon l'on recourra à la force pour leur expulsion. Karimi a déclaré dans un entretien avec le site d'information Al-Malouma que les campagnes d'intoxication américaines ne pouvaient pas briser la volonté de la nation irakienne d'expulser les occupants. Le leader du courant Sadr, Murtada Sadr, a par ailleurs plaidé dans un communiqué pour la fermeture de toutes les bases militaires américaines se trouvant sur le sol irakien. Murtada Sadr a insisté dans son communiqué sur la nécessité du retrait des forces d'occupation d'Irak. La manifestation du vendredi en Irak a mobilisé toutes les ethnies irakiennes qui demandent unanimement l'expulsion d'Irak des troupes américaines. L'armée syrienne intensifie ses attaques contre la banlieue du sud d'Idlib et envisage d'atteindre Marat al-Nouman, fief des terroristes du front al-Nosra. Les combats se sont intensifiés sur les fronts nord de la Syrie, en particulier dans les campagnes ouest et sud d'Alep et la périphérie sud-est d'Idlib, en raison de la violation de la trêve par les parties turques et russes. En effet, ces derniers jours, les attaques des Nosratistes contre les positions de l'armée syrienne dans la campagne sud d'Idlib ont pris un rythme ascendant. Le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie a déclaré dans un communiqué que 140 membres de l'armée syrienne ont été tués et blessés dernièrement par des terroristes dans cette attaque, après avoir repoussé le vendredi 24 janvier une attaque d'envergure des terroristes du front al-Nosra. L'armée syrienne a repris le contrôle du village Smak et d'autres cités environnantes, situées dans le sud-est d'Idlib. Les militaires syriens ont commencé à faire une progression vers la campagne sud-est d'Idlib, où ils ont avancé jusqu'au village de Mar Shamarin, fief du groupe terroriste des soldats du Caucase, pour se tenir aux portes de la ville stratégique de Marat al-Numan. Pendant ce temps, l'armée syrienne tente de repousser les tirs des terroristes sur la route internationale M5 entre les villes de Saraib et Marat al-Numan. Des groupes terroristes ont fait part d'une réunion à Ankara entre la partie turque et les terroristes opérant dans le nord de la Syrie en vue de freiner la progression de l'armée syrienne à Alep et Idlib, contrôlés par des groupes terroristes et des éléments soutenus par la Turquie. Au Yémen, la coalition d'agression saoudienne a de nouveau violé le cessez-le-feu à Hudaïda. Vendredi 24 janvier au soir, la coalition d'agression saoudienne a tiré une trentaine de Katyusha et des obus de mortier vers le village d'Al-Shajan, appartenant au district d'Al-Duraihibi. Des maisons d'habitation ont été fortement endommagées et incendiées. La même nuit, la coalition d'agression saoudienne a tiré 27 obus de canon vers le village d'Al-Fazeh, dans le district de Tuaïta. Au moins 3 personnes ont été tuées dans ces attaques. Les frappes saoudiennes se font en totale contradiction du cessez-le-feu qui est entré en vigueur il y a presque un mois, conformément aux accords de Stockholm. Le président du Haut Conseil suprême du Yémen a déclaré lors d'une rencontre avec l'émissaire de l'ONU qu'au cas où l'Arabie saoudite continuerait d'attaquer, l'Est Sanaa, Ansarallah, préparait une nouvelle série de frappes visant l'Arabie saoudite. Quittons la région et allons directement en France, où le projet de loi retraite a été présenté et adopté le vendredi 24 janvier en Conseil des ministres. Il doit être examiné par une commission à l'Assemblée nationale à partir du 3 février. Il comporte une épaisse étude d'impact de plus de 1000 pages qui vient d'être rendue publique. Ce texte pourrait encore connaître des ajustements sur la pénibilité notamment. Après plus de 2 ans de concertation et plus de 50 jours de mouvements sociaux, le gouvernement a présenté son projet de loi en Conseil des ministres. En dépit d'un ralentissement de la grève dans les transports, les foyers de contestation demeurent bien présents. Les avocats, enseignants, professeurs et médicales ont multiplié des actions spectaculaires ces derniers jours. Dans un sondage BVA réalisé pour La Tribune, RTL et Orange, 70% des Français estiment que les mouvements de protestation devraient se poursuivre. Une journée interprofessionnelle a été décidée pour le 29 janvier après une réunion vendredi matin au cours de laquelle la CFE-CGC, qui souhaitait faire une pause, a annoncé son retrait de l'intersyndicale. Des actions sont proposées également les 30 et 31. Ouvrons la page de l'actualité africaine. Au Mali, 3 soldats belges ont été blessés quand leur véhicule a roulé sur un engin explosif improvisé dans le nord du pays, a communiqué le ministère de la Défense. Un militaire a été transféré dans un hôpital français à Gao. Les 2 autres militaires, l'un des deux avec un bras cassé, ont été soignés sur place. Les 3 militaires sont dans un état stable, leur pronostic vital n'est pas engagé. Le 1er janvier, 2 militaires belges avaient déjà été blessés dans les mêmes circonstances. Pour rappel, l'armée belge est présente au Mali dans le cadre de la mission de l'ONU pour la stabilisation du pays, la MINUSMA. 90 militaires y sont déployés. Le but de cette mission de paix des Nations Unies est de stabiliser... Le but de cette mission de paix des Nations Unies est de stabiliser le Mali et de guider le processus politique. Une dizaine de militaires belges sont également présents sur le territoire dans le cadre de la participation de la Belgique à la mission d'entraînement de l'Union européenne qui forme l'armée malienne, rappelle la Défense. Et enfin, pour fermer le journal, un protocole d'accord a été signé entre les gouvernements indien et tunisien pour la mise en place à Tunis d'un centre indo-tunisien pour l'innovation dans les TIC. Le ministre indien des Affaires étrangères a effectué une visite de travail en Tunisie du 22 au 23 janvier. Le protocole d'accord décrit la coopération entre le gouvernement de la République de l'Inde et le gouvernement de la République tunisienne dans leurs efforts pour soutenir l'accélération des entreprises et stimuler les interactions entre les écosystèmes d'innovation et d'entrepreneuriat des deux pays, visant à créer un lien durable entre les universités, les centres de formation dans les technologies avancées, les start-up et les petites et moyennes entreprises, en plus de l'amélioration de la viabilité des start-up par l'incubation et l'accompagnement systématique. Le protocole d'accord entre la Tunisie et l'Inde rentre dans le cadre d'un accord plus large signé en 2016 par les deux pays pour le renforcement de leur coopération bilatérale dans le domaine des technologies de l'information et des communications TIC et de l'économie numérique. Voilà, ainsi s'achève le journal. Reste à l'écoute du commentaire politique. Syrie, premier clash armé USA-Russie, c'est le titre du commentaire politique. Il y a 6 jours, le QG des forces russes à Idlib était pris pour cible d'une attaque terroriste attribuée aux qaïdistes. Attaque qui était similaire à une tentative d'assassinat ciblé, comme celui qu'a visé le 3 janvier le haut commandant de la force ROTS, le général de corps d'armée Rassem Soleimani, en plein aéroport de Bagdad. La frappe anti-russe que les médias ont eue a fait 4 morts dans les rangs des officiers russes et 1 blessé, faisant dire à certains observateurs que l'Amérique de Pompeo venait de faire là la première illustration de ce qui est désormais sa stratégie officielle, le terrorisme ciblé. Laquelle stratégie, après avoir visé l'Iran, se tournerait vers la Russie et la Chine. Quelques jours plus tard, à savoir le mardi 21 janvier, les sources militaires russes ont fait état d'un premier clash entre Russes et Américains, ces derniers ayant barré la route à coups de menace de recours aux armes au convoi militaire russe qui se dirigeait vers la base aérienne de Ramishli. Mais les provocations US contre la Russie n'en sont pas restées là. Le vendredi 24 janvier, le site militaire russe Aviapro a fait part de l'arrestation d'un général russe par les forces américaines dans la localité de Manh Beach, information qui date de quelques semaines, mais que les Américains ont choisi de rendre publique cette semaine, sans doute dans le strict objectif de lancer un signal rouge aux Russes. L'arrestation du général de division russe a été annoncée d'ailleurs très fièrement par la voix du représentant spécial russe pour la Syrie James Jeffrey, qui s'est voulu bien menaçant. Le haut gradé russe avait ouvertement traversé le territoire sous contrôle des États-Unis, d'où son arrestation, a dit l'Américain. Les États-Unis cherchent-ils à l'aide de l'OTAN et de la Turquie à encercler l'armée syrienne et la Russie dans le nord et à surtout déposséder Moscou de leur base aérienne stratégique de Ramishli? Visiblement, le fait que la Russie ait décidé de déployer des batteries de missiles S-400 sur cette base, qui se trouve à quelques kilomètres du nord irakien et de la Turquie, place de facto une grande partie du ciel irakien sous le contrôle de la Russie et partant de l'axe de la résistance, ce qui pourrait constituer un prélude à un retour à la souveraineté aérienne pour Bagdad. Pour le reste, un premier clash entre forces russes et américaines en Syrie vient d'être rapporté. Al-Masdar News a rapporté qu'un violent échange de tirs s'est produit entre les forces russes et américaines vendredi. Pour le moment, il n'y a pas de photos ni de vidéos de la scène. Cependant, le Pentagone a confirmé l'incident, a dit Al-Masdar News. La Russie a-t-elle décidé de mettre fin à la patience stratégique et à contrer l'offensive USA-OTAN? La trêve Russie-Turquie a cessé d'exister et les médias font état d'une reprise de la guerre à Idlib.